Donc, bon, on y va, alors. Bonjour à tous. Nous allons poursuivre ce colloque interdisciplinaire « Qu'est-ce que la vie aujourd'hui ?» par une troisième session intitulée « Évolution au pluriel » que nous allons modérer avec Martine Ossaert, qui est directrice adjointe scientifique à l'INE. Pour ma part, je m'appelle Marie Gaille et je suis directrice adjointe scientifique à l'INSHS. Alors, nous avons conjoint, en fait, dans cette session, trois moments. Un moment consacré à l'évolution du vivant, le temps de l'espèce. Une conférence qui sera présentée par Yvon Lemao sur l'évolution sous contrainte. Et après une pause, un troisième et dernier moment qui sera consacré au temps de l'individu, le cas de l'espèce humaine. Alors, avant de présenter et de passer la parole aux intervenants, je voudrais simplement dire quelques mots et peut-être que Martine poursuivra la présentation. Alors, d'abord, d'un point de vue pratique, je vous demanderai, quand vous allez poser des questions ou faire des commentaires, de vous présenter pour l'enregistrement. Et puis, d'autre part, je remercierai les intervenants de tenir leur temps, car le programme est très dense. Voilà. Alors, simplement, moi, je voulais dire que quand on a construit le colloque, on s'est réuni donc les différents instituts dans le cadre de la mission pour l'interdisciplinarité, et qu'il y a différentes façons de répondre ou de chercher à répondre à la question « qu'est-ce que la vie ?». Et l'attitude scientifique qui est la nôtre pendant ces deux jours en est une parmi d'autres. Alors que nous en discutons de mille et une autres manières de cette question « qu'est-ce que la vie ?». Ici, nous nous concentrons sur l'exploration de différentes hypothèses et réponses formulées dans la perspective d'élaborer des connaissances. Mais il y a au moins une chose à noter et qui est centrale, me semble-t-il, pour la session de ce matin, peut-être plus encore que pour les autres, c'est que les êtres humains, qui sont des vivants parmi les autres, sont les seuls êtres vivants à élaborer des théories pour connaître et concevoir la vie, mais aussi élaborer des représentations, à s'imaginer des histoires sur la vie, sur leur vie. Et ces histoires, ces représentations ont différents statuts dans l'ordre de la connaissance, ne prétendent parfois pas du tout à être des formes de connaissance. Ces êtres vivants font aussi des expériences de vie et ils montent des expérimentations sur la vie. Il y a donc de multiples activités, à la fois théoriques et pratiques, articulées autour de cette question « qu'est-ce que la vie ?». Alors, ces multiples activités, elles sont au cœur des objets centraux pour les sciences humaines et sociales, mais pas seulement, comme nous le verrons, puisque le programme est vraiment bâti de façon interdisciplinaire. Et ces activités, elles sont étudiées sous un angle individuel ou collectif. Est-ce qu'un regard formé aux sciences humaines et sociales peut peut-être apporter au questionnement, mais encore une fois, sans exclusivité, c'est de situer la vie sur des échelles de temps bien particulières. Et on en a un petit peu parlé hier, c'était un élément qui a été mis en avant dans l'introduction du colloque, cette question des temporalités. Ici, la troisième session est effectivement consacrée à des échelles de temps différentes, éventuellement à leur articulation, et c'est un des objets de questionnement qu'on voulait mettre en avant et partager avec vous, le temps de l'évolution, et puis le temps, y compris d'ailleurs celui de l'évolution, tel qu'il est ressaisi dans une histoire humaine individuelle et collective. Alors ces deux échelles de temps, elles ne s'opposent pas, mais il convient sans doute de bien les déplier pour définir les différentes temporalités, appréhender leurs particularités et voir comment on peut articuler ces échelles de temps dans une tentative de réponse à la question « qu'est-ce que la vie ?». Alors je vais peut-être laisser Martine présenter les premiers intervenants. Simplement pour la seconde partie de la matinée, je voudrais souligner qu'on écoutera des présentations dans lesquelles la question « qu'est-ce que la vie ?» permet de mettre en évidence une problématique centrale de l'histoire individuelle et collective, à savoir comment les individus, mais aussi les sociétés, parce que même si on a intitulé cette session « Le temps de l'individu », ce sont toujours des individus sociaux, comment les individus et les sociétés articule des histoires et des connaissances sur le vivant qui font sens pour eux. Donc c'est vraiment toute cette interaction entre du biologique, du vivant, du social qui sera au centre des trois interventions de la deuxième partie de la matinée et qui nous seront donc présentées. Je les présente de façon anticipée, elles viendront tout à l'heure parler, par Séverine Mathieu qui est sociologue, Fabienne Ojard, qui est biologiste et spécialiste du vieillissement, et Laura Bossy-Régnier, qui est neurologue et histoire des sciences, et qui donc, à toutes les trois, incarne particulièrement l'esprit d'interdisciplinarité qu'on a voulu donner à ce colloque. Voilà, je laisse la parole à Martine pour revenir sur la première partie de la matinée.
Très brièvement, parce que vous êtes venu surtout pour écouter les intervenants. Donc, je vais présenter le premier intervenant, qui est Guillaume Lecointre, rapidement, qui est professeur au Muséum, qui a écrit des ouvrages dans notre domaine, qui sont, enfin, et d'ailleurs de vulgarisation, qui sont donc très, très reconnus sur l'évolution, sur les espèces, sur les origines de la vie et du vivant. Donc, je pense qu'il va nous raconter tout ça, là, juste maintenant. Je vais le laisser parler, il parlera mieux de lui et de ses travaux que moi. Guillaume, oui, t'y vas. Tu veux que je parle de toi pendant 15 minutes, c'est ça?
Non, c'est bon. Alors, affichage. Où est-ce qu'il est clair? Oui, j'ai un petit tableau à vous montrer. Bonjour. Oui, évolution plurielle. Je vais utiliser celle-là. Évolution plurielle, donc, je me proposais de rappeler dans un contexte interdisciplinaire l'état dans laquelle est la théorie générale de la biologie aujourd'hui et les rattrapages qu'il a fallu qu'on opère depuis une quinzaine d'années. Vous allez comprendre pourquoi rattrapage. Le vivant déstabilisé pour stabiliser, j'aurais dû dire. Un des points de mon intervention, c'est de souligner qu'on a un peu trop oublié dans l'enseignement de l'évolution et même dans la façon dont les chercheurs parlent de leur propre évolution, l'évolution des objets qu'ils regardent. Et on a eu tendance à oublier que la sélection naturelle pouvait avoir, dans un premier temps, un rôle stabilisateur. Et ça a des conséquences considérables, y compris thérapeutiques d'ailleurs. On finira là-dessus. D'autre part, ce qui se transmet à la génération suivante est en train d'être, élargi. Il y a une revue dans Science qui a été publiée il y a 15 jours, il y a 3 semaines, qui fait le bilan là-dessus et qui montre qu'en fait, la théorie de la biologie est beaucoup moins centrée sur une héritabilité arc-boutée sur le gène. Et disons que ça nous donne à repenser, y compris même l'origine de la vie. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle la vie, bien entendu. Alors, déstabiliser pour stabiliser, d'abord, on aime bien penser que l'ordre à grande échelle provient, on va dire, d'un ordre à petite échelle ou d'un donneur d'ordre à petite échelle. Notre œil se concentre sur ce qui est régulier et néglige, mais ça c'est un biais anthropocentrique, hein. On néglige ce qui est irrégulier, on n'aime pas le hasard en fait, on privilégie ce qui est régulier. Le vivant, c'est toujours du pareil dans ce qui change et... du pareil dans le même et du même dans le pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vieux problème. On a l'impression de voir la même chose, mais en réalité, vous le savez, c'est pas du tout la même chose. Entre ce qui est à gauche ici et ce qui est à droite, il n'y a plus un seul atome commun. Et ne me parlez pas de la mémoire de cet individu. Sa mémoire s'altère, comme la mémoire est une propriété émergente du système nerveux central. Elle s'altère, on est bien placé pour le savoir. Et donc, en fait, quand ça change, qu'est-ce qui change? On a des problèmes de taxonomie avec ça. Comment démarrer arbitrairement la phase du flux de changement qu'on appelle un individu jusqu'à la fin de cet individu? Ces limites-là sont parfaitement arbitraires. Elles ne sont pas inscrites dans le vivant, en fait. Et on a un problème de taxonomie, premièrement. Et deuxièmement, nous négligeons ce qui change. Ce qui fait que nous aimons bien penser que cette chose-là est la même parce qu'elle a un donneur d'ordre inclus en elle-même, qui maintient sa préservation. Plus la biologie avance au XXIe siècle, moins il y a de donneurs d'ordre, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Pourquoi a-t-on besoin de donneurs d'ordre? Parce qu'on a eu tendance au XXe siècle à oublier que la sélection naturelle pouvait être en fait un facteur de régularité apparaissant à nos yeux. Les donneurs d'ordre en biologie, on s'en est jamais débarrassé. Si vous regardez ici à droite, vous avez la pensée de Linné au XVIIIe siècle. Pour lui, le donneur d'ordre, c'est le divin, puisque je vous rappelle que Linné fait des sciences naturelles dans un cadre théologique. Et donc, il voit une seule chose au milieu. Là, il voit des individus qui se rattachent au type de l'espèce, les espèces ayant été créées par le divin en une seule fois, alors qu'à gauche, ici, à gauche, le monsieur à gauche, lui, il voit 24 choses, il voit des individus, les catégories ne sont pas dans la nature, les catégories sont créées par nous, y compris les catégories comment dire, d'espèces et même, on pourrait en parler, d'individus. Et donc, il faut retourner aux sources pour comprendre pourquoi la biologie est en train de changer à cet égard. Alors, pourquoi est-elle en train de changer? Simplement, ces deux figures-là, qui sont relativement classiques, où on a une transformation, faire un effort pour durer, ça c'est un petit peu la pensée lamarckienne, c'est... En 1809, si vous voulez, on pense que c'est en remplissant leurs besoins, en menant des actions pour satisfaire ces besoins, les individus commettent des efforts ou entraînent par là certains organes, par défaut d'effort, ils diminuent certains organes, la transmission ou le renfort ou la diminution des organes se transmet à la génération suivante. Donc, vous avez en quelque sorte une origine de la variation. Lamarck s'interroge sur l'origine de la variation et il aboutit à une stabilisation au bout du compte, mais la stabilisation elle est relativement régulière de génération en génération. Alors que pour Darwin, qui ne s'intéresse pas directement au premier abord à l'origine de la variation, lui il prend la variation comme un état de fait, elle est déjà là en fait, et elle n'apparaît pas nécessairement aux besoins de son porteur, et vous remarquerez que dans cette figure, plus on avance de génération en génération, plus on homogénéise, entre guillemets, la population, on aboutit à un stade relativement, comment dire, homogène. Attention, la variation continue d'apparaître, évidemment, la matière ne cesse pas de changer. Alors, dans ces deux schémas, on termine par des petits individus qui sont à peu près les mêmes. Au trait donné, le variant atteint une fréquence de 100%. On a une image d'une sélection naturelle qui, effectivement, aboutit à un résultat stabilisateur. L'altération de la matière subséquente ne relève pas directement de la sélection, elle relève tout simplement du fait que les êtres vivants sont matériels, donc ils changent. Un petit clin d'œil pour le sous-titre, c'est là que je vais aborder la question du rôle de la sélection naturelle. Le sous-titre de l'origine des espèces en 1859, il est curieux ce sous-titre, moi j'ai jamais compris pourquoi Darwin n'emploie pas le mot transmutation, il n'emploie pas le mot transformation, il n'emploie pas non plus le mot évolution, ça sera pour un peu plus tard. Il parle de préservation des variations favorisées au cours de la lutte pour l'existence. C'est quand même marrant, il parle de préservation. Alors que moi, j'ai appris à l'école que le rôle de la sélection naturelle, c'était d'expliquer pourquoi et comment les espèces changent. Là, on ne vous parle pas de changement, on vous parle de préservation. Est-ce qu'on a bien compris de quoi il s'agit vraiment? Et si on relit Darwin, on s'aperçoit qu'en fait, la question n'est pas de savoir comment les espèces changent, parce que les espèces ne sont pas données à voir par les humains. Ce qui est donné à voir pour Darwin, ce sont les individus. La sélection naturelle va expliquer... pourquoi, malgré un potentiel de changement et de variation considérable, on arrive encore à avoir une moyenne à peu près reproductible de génération en génération, moyenne avec laquelle notre langage va créer des espèces. Chez Darwin, les espèces ne sont pas dans la nature, elles sont des conventions de langage. Alors, pour comprendre ce qui va se passer, la trahison qui va se passer au XXe siècle, et qui a des conséquences, y compris en thérapeutique, on le verra tout à l'heure, pour le siècle de Linné, vous avez sur la colonne de gauche ceux qui expliquent, la colonne du milieu ceux qui étaient expliqués, et la colonne de droite ce qui est donné à voir aux hommes. Pour Linné, ce qui est donné à voir aux hommes, ce sont les espèces. Linné pratique un réalisme de l'espèce. C'est normal, Dieu a créé les espèces de sa main. Donc Dieu explique la régularité de l'espèce pour Linné. Pourquoi parle-t-on encore de Darwin aujourd'hui? Parce que Darwin va renverser complètement ce qui est donné à voir déjà. Pour Darwin, ce qui est donné à voir, ce ne sont pas des espèces, ce sont des individus et leurs variations. La sélection naturelle a pour rôle premier d'expliquer la régularité parmi les individus qui ne cessent de varier. Et à partir de cette régularité, notre logos fabrique des espèces. Les espèces ne sont pas dans la nature pour Darwin, elles sont des conventions de langage établies par les humains. C'est considérable. Moi, ce n'est pas ce qu'on m'a appris à l'école. Quand j'étais à la fac, on m'a dit le rôle de la sélection naturelle, c'est d'expliquer le changement des espèces. Ce n'est pas d'expliquer les régularités à partir desquelles nous faisons des espèces. Alors, il y a une trahison au XXe siècle, c'est la théorie synthétique de l'évolution. Quand je dis une trahison, le mot est un peu fort. Disons qu'il y a un bras de fer au sein de la théorie synthétique entre Ernst Mayr qui pratique le réalisme de l'espèce et Simpson qui est un peu plus, comment dire, le paléontologue Simpson qui est un peu plus modéré en cette matière. On va dire que c'est Ernst Mayr qui a gagné le bras de fer. Pour Ernst Mayr, la sélection naturelle explique le changement des espèces. Pourquoi? Parce que les espèces sont réelles pour Mayr. Ma remarque à Marc-André hier après-midi, c'était typiquement ça, c'est que si nous pratiquons une biologie synchronique, si nous regardons la nature ici et maintenant, si nous ne nous donnons pas la profondeur du temps, nous avons l'impression que les espèces sont réelles. Et oui, les éléphants ne font pas de petits avec les girafes. C'est évident. Et dans les écoles, on vous le dira. Seulement, une science constituée a besoin d'une théorie. Et pour avoir une bonne théorie de la biologie, vous êtes obligé de vous mettre dans la profondeur du temps. Et dans la profondeur du temps, eh bien, les espèces vous apparaissent comme conventionnelles. Parce qu'il y a l'ancêtre commun, ou les ancêtres communs, la girafe et l'éléphant, comment vous l'appelez? Vous l'appelez girafe ou vous l'appelez éléphant? Ou entre les deux? Et les rafes, je ne sais pas, enfin bref. Vous voyez bien qu'on est bien obligé à un moment donné de poser la convention de langage dans la profondeur du temps. Donc, comme il y a un réalisme de l'espèce chez Mère, parce que Mère privilégie une définition de l'espèce, vous l'avez vu hier dans le topo de Marc-André, la définition de 1942, on parle de l'espèce ici et maintenant, on ne parle pas de sa profondeur dans le temps, eh bien la sélection naturelle explique le changement des espèces. Ça, c'est ce qui va nous rester dans l'enseignement au XXe siècle. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on revient à Darwin, c'est-à-dire que les espèces ne sont pas réelles. Les espèces, ce qui existe dans la nature, ce que vous pouvez documenter vraiment, ce sont des barrières à la reproduction. Mais l'espèce en tant que contenant, c'est-à-dire en tant que concept, c'est un concept abstrait, théorique. La sélection naturelle explique les régularités à court terme des individus avec laquelle on va faire des espèces, nous. Elle explique évidemment sur le long terme aussi les changements, car évidemment, il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Si les paramètres du milieu changent, bien entendu que la moyenne en question va changer. Et donc évidemment que la sélection naturelle explique aussi le changement des espèces si les milieux changent. Mais dans un premier temps, nous avons oublié au XXe siècle que la sélection naturelle pouvait être stabilisatrice. Les conséquences sont énormes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans biologie médicale, on essaie d'expliquer le corps humain. Premièrement, avec une notion de programme. Le donneur d'ordre de la régularité du corps, c'est un programme. Nous ne sommes pas prêts à admettre qu'il y a de la variation intrasomatique. Moi, quand j'ai appris ma biologie, toutes les cellules avaient le même génome. Aujourd'hui, on sait bien que c'est faux. Il y a une variation considérable entre les cellules d'un même corps. Et aujourd'hui, la biologie est prête pour admettre, il y a plein de papiers qui sortent, que la sélection naturelle a lieu dans votre corps, entre variants, entre cellules de votre propre soma. Vous allez voir ça tout à l'heure sur le cancer. Donc l'espèce n'est pas donnée à voir, elle est une convention. Mais comme la biologie du XXe siècle, la biologie médicale cherchait une régularité à la source du corps, c'est pas la sélection naturelle que nous sommes allés chercher pour expliquer les régularités à l'intérieur du corps, puisque la sélection naturelle au XXe siècle avait d'abord comme premier rôle, un rôle de changement. Or, quand vous êtes un médecin, vous n'essayez pas d'expliquer le changement du corps, c'est la régularité du corps qui vous intéresse. Donc nous ne mobilisons pas la sélection naturelle dans le corps parce qu'elle n'est pas pourvoyeuse de stabilité dans l'esprit des chercheurs du XXe siècle. Aujourd'hui, ça a changé, on sait qu'elle peut être temporairement stabilisatrice et donc on la convoque dans le corps. Donc pour résumer, les espèces sont des conventions. Il y a un lien. Hein. Je change de niveau à chaque fois. Je fais le yo-yo entre les niveaux d'intégration. Mais il y a un lien entre ce que nous considérons être une espèce et le rôle de la sélection naturelle en biologie en général. Si les espèces sont conventionnelles, eh bien, ce que la sélection naturelle doit expliquer, effectivement, c'est précisément la stabilisation temporaire d'une moyenne à partir de laquelle nous faisons des espèces conventionnellement. Le rouge, c'est du contenant, c'est conceptuel. Le bleu, c'est ce qui est réel. Hein ? Donc les limites rouges que vous voyez là, ce sont des limites langagières. Ce ne sont pas des limites qui sont inscrites dans la nature. Donc une espèce, qu'est-ce que c'est ? C'est un flux de génération non divisé. Et là, quand je vous définis l'espèce comme ça, je la prends dans la profondeur du temps. Je ne reste pas dans une couche synchrone telle que le faisait Ernst Mayr. Alors le donneur d'ordre au XXe siècle, ça n'a pas été la sélection. La sélection d'ailleurs n'est pas un donneur d'ordre. Déstabiliser pour stabiliser, je joue avec les niveaux d'intégration évidemment. La sélection naturelle, ce qu'elle vous dit, c'est que si vous assurez de la variation à petit niveau, vous garantissez la pérennité du flux de génération à un niveau plus haut. Le niveau d'étude de la matière qu'analyse la biologie, c'est précisément le moment où ce qui est bon pour un individu n'est pas bon pour le lignage et ce qui est bon pour le lignage n'est pas bon pour l'individu. C'est-à-dire que pour qu'un lignage se pérennise, il faut qu'il y ait des morts. Il faut qu'il y ait un cimetière invisible. Et d'ailleurs, nous vivons dans un cimetière invisible, nous ne le savons pas. Une toute petite fraction des fécondations chez l'homme mène à un bébé qui va naître. La sélection, vous pouvez la faire descendre jusqu'aux relations entre cellules. Hein ? Donc en réalité, la notion de programme qui a été importée au XXe siècle est en train de s'étioler en quelque sorte. Aujourd'hui, on sait que la notion n'est plus vraiment utile. Puisqu'on est dans une biologie qui est devenue davantage probabiliste, en faisant entrer le caractère aléatoire de l'expression génétique et la sélection naturelle à l'intérieur de la cellule. Donc le programme n'est pas donné à voir. En fait, le programme, c'était la béquille du réalisme d'Ernst Mayr au XXe siècle. Si Ernst Mayr considère que les espèces sont données à voir, qu'est-ce qui fait l'espèce ? c'est pas la main divine, puisque la main divine n'est plus convoquée en science au XXe siècle. Elle était peut-être au XVIIIe, mais c'était plus le cas. Le contrat de travail a changé. Donc si c'est pas la main divine, qu'est-ce qui fait l'espèce ? C'est un donneur d'ordre qui a servi de béquille au réalisme de l'espèce qu'on a appelé le programme. S'il n'y a plus de programme, effectivement, vous pouvez réintroduire la sélection naturelle comme potentiellement génératrice de stabilité à l'intérieur du corps, ce que semble conforter d'ailleurs les dernières données de la biologie. Alors là, c'est un papier qui remonte déjà à 2002, mais un premier Science en 2002 qui montre qu'on peut expliquer l'expression génétique par son caractère. Enfin, on peut démontrer le caractère stochastique de l'expression génétique et à partir de là, avoir des régularités dans une boîte de pétri qui sont davantage le fruit d'une sélection ici et maintenant que d'un programme, toutes ces cellules que vous voyez là étant supposées les mêmes génétiquement. Hein. Stochastic Gene Expression in a Single Cell, le titre du papier, Elowitz. Ça, c'est un papier fondateur sur la nouvelle biologie. Le hasard au cœur de la cellule, effectivement, la notion de programme s'étiole et nous faisons rentrer la sélection à tous les niveaux d'intégration du corps. Ça a des conséquences, et j'en termine là, j'en terminerai sur un petit clin d'œil sur les protéines. Ça a des conséquences considérables sur la thérapie. Aujourd'hui, là j'ai pris une revue de Willard dans Nature cette année, au printemps, et puis là un papier aussi très intéressant qui montre que dans une tumeur cancéreuse, aujourd'hui, on sait documenter beaucoup plus de variations qu'il n'y en a dans toutes les autres cellules du corps. Variations génétiques, j'entends. Et que plutôt que d'éradiquer les cellules potentiellement métastasiques, c'est-à-dire qu'en fait, les thérapies éliminatives, comme vous le savez, laissaient quelques cellules potentiellement métastasiques sur place, éradiquant toutes les autres, créant un vide. Ça allait mieux pendant 2 mois, et puis après, il y a ce que les anglo-saxons appellent le competitive release, c'est-à-dire qu'il y a un relâchement compétitif. Les quelques cellules qui ont survécu prennent l'espace laissé vacant, et ça vous fait une bouffée de cellules métastasiques qui tuent le patient en moins de 3 mois. Donc les thérapies éliminatives sont dangereuses, et ce que dit ce papier, c'est que les thérapies qui utilisent un raisonnement sélectif sont plus efficaces à que les logiques éliminatives. Et ce que dit cet article, c'est que les principes évolutionnistes incorporés dans la logique avec laquelle vous administrez les substances anticancéreuses pour soigner le cancer de la glande mammaire ici, les thérapies évolutionnistes sont plus efficaces à faire taire la tumeur que les thérapies éliminatives, jouant sur des doses aléatoires de substances, rétablissant le dialogue cellulaire et la compétition sélective à l'intérieur de la tumeur, car on sait aujourd'hui que la prolifération est un état par défaut dans les cellules, c'est pas provoqué par un gène qui, non, c'est l'état par défaut, et cet état par défaut, normalement, est régulé, un peu comme les espèces sont prolifératives et entre espèces, elles se régulent les unes les autres, et bien dans la tumeur, c'est pareil, vos cellules sont toutes prolifératives par défaut, mais si elles ne prolifèrent pas, c'est qu'elles, au contraire, elles sont stabilisé par le dialogue cellulaire et les relations compétitives entre les cellules. Et ce que dit cet article, c'est qu'en tenant compte de ce raisonnement-là, on éteint, en fait, enfin, on stabilise la tumeur beaucoup plus que par des logiques éliminatives. Les logiques éliminatives venant directement de la pensée du programme. Hein. Si la cellule était proliférative, c'est qu'il y avait un bug dans le programme et il fallait éliminer les cellules qui avaient un bug dans leur programme. Voyez l'inversion du raisonnement. Comme quoi, les concepts, c'est pas toujours de l'épistémologie éthérée. Nos concepts ont des conséquences directes sur la vie des individus. Peut-être qu'on sauvera des vies en ayant admis que la sélection naturelle puisse jouer son rôle dans les tumeurs cancéreuses. La biologie change, je vous l'ai dit. Ce papier en 2014 dans Nature, Does Evolutionary Theory Need a Rethink? Quand vous lisez ce dialogue, là, vous apercevez qu'en fait, il n'est pas question vraiment de refonder la théorie évolutive. Il est question surtout de savoir qu'est-ce qui s'hérite à la génération suivante. Ça, c'est, je pense que c'est le centre du papier. Alors, il y a une synthèse qui a été publiée, je vous le disais, il y a 15 jours, 3 semaines, qui fait le point sur ce qui s'hérite à la génération suivante. Et ça refonde quand même considérablement toutes nos notions de la biologie. Parce que dans le modèle que j'ai appris à l'école et que vous avez appris à l'école, en haut ici, un phénotype A se retrouve reproduit à la génération suivante en phénotype A'. Les phénotypes se transmettent, mais il y a du différent dans le pareil, il y a du pareil dans le différent. Je vous le rappelle, les choses ne sont jamais transmises à l'identique. L'identique n'existe pas en biologie. Deux objets ne peuvent pas être identiques. Donc le phénotype A produit un phénotype ressemblant A' selon deux modules. Alors, il y a un module de reproduction et un module d'hérédité. Dans la biologie que j'ai apprise, l'hérédité n'était pas soumise à l'environnement. Seul le taux de reproduction était soumis à l'environnement. Évidemment, le nombre de bébés que vous allez faire dépend des aléas que vous allez rencontrer au cours de votre vie. Eh bien, la biologie d'aujourd'hui, c'est la figure du bas où vous avez trois modules qui expliquent comment un phénotype se transmet à la génération suivante. Évidemment, le module hérédité est là, mais vous avez une intervention de l'environnement à travers ce qu'on appelle l'épigénétique. La reproduction, évidemment, est toujours là. Le taux de reproduction dépend de ce qui se passe dans l'environnement. Et le développement s'invite dans la reproduction d'un phénotype. Et ça, c'est énorme. Alors ça, à mon avis, c'est un bâton de dynamite, en fait. On ne s'en rend pas compte comme ça. Si le développement s'invite en tant que module d'héritabilité, il n'y a plus de différence entre l'ontogénèse et la phylogénèse. Si vous y réfléchissez jusqu'au bout, je n'ai pas le temps de détailler, mais Science ne s'en rend pas compte tout seul, ils l'écrivent pas comme ça, mais les conséquences de ça, c'est qu'on n'a pas l'ontogénèse d'un côté et la phylogénèse de l'autre. Il n'y a plus un processus de génération des individus qu'on appellerait l'ontogénèse, séparé d'un processus de génération des flux à plus grande échelle d'individus qu'on appellerait la phylogénèse. Les deux notions se réunissent en une ontophylogénèse. Le mot n'est pas utilisé dans l'article, mais la conséquence est la même. En d'autres termes, l'environnement intervient sur le taux de reproduction, l'environnement intervient en épigénétique, et l'environnement intervient dans un développement. C'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique. Rappelez-vous de ce papillon du genre Précis, qui, selon si la chrysalide, selon si la saison est sèche ou la saison est humide, donne lieu à un imago, un papillon adulte, dont les couleurs et la forme des ailes ne sera pas la même. L'environnement participe aussi à la réalisation du phénotype. Ça, c'est pas nouveau. Il y a eu la triple hélice de Lewontin en 1998 qui a raconté ça. Bref, l'environnement intervient sur les trois modules. Ça veut dire qu'il n'y a pas de programme. Ou alors dites-moi quel programme il faut penser. La régularité d'un phénotype au cours des générations et peut-être le fruit d'une sélection naturelle, évidemment l'environnement intervenant, puisque je vous rappelle que la sélection elle tire du chapeau des variants qui ont été, comment dire, filtrés par des paramètres environnementaux. Voilà, en gros, ça vous refonde quand même la biologie. Et pour terminer sur les protéines, ça sera ma dernière image. Si la sélection naturelle peut être stabilisatrice, si on est prêt à ouvrir la biologie à plusieurs modes de transmission, ce n'est pas la reproduction. Transmettons quelque chose, une propriété, on va dire, à la génération suivante, ou à un alter ego. Si ce qui varie et que si ce qui a varié peut se transmettre à un alter ego, eh bien on peut faire descendre ce principe de sélection naturelle à des niveaux où des conformations tridimensionnelles peuvent se transmettre un alter ego par contact. Alors, je n'ai pas trop le temps d'expliquer le modèle, mais peut-être qu'après tout, les protéines sont aussi, pas seulement les ARN, mais les protéines sont aussi le premier niveau moléculaire où vous pouvez avoir une polymérisation d'acides aminés abiotiques. Elle est documentée dans Science depuis 1991 déjà. On sait que des acides aminés en milieu abiotique peuvent s'enchaîner les uns les autres. À partir de 12 acides aminés, vous avez votre chaîne qui commence à se reployer dans l'espace. Et à partir de là, vous avez un champ électrostatique à la surface. Et par contact, il est possible que, c'est un modèle, hein, ça n'est pas testé expérimentalement, mais par contact, une conformation tridimensionnelle peut être passée à un alter ego. Le champ électrostatique en question, s'il est vraiment actif, peut commencer à imprimer des contraintes sur le prochain de ceux des acides aminés qui pourraient être agglomérés au précédent. Et donc, on a peut-être un début de régularité d'une chaîne d'acides aminés en dehors de toute cellule. Alors ça, c'est un modèle, mais je glisse l'idée comme ça. La biologie est mûre, à mon avis, pour qu'on élargisse les concepts avec lesquels on était habitué à penser la biologie jusqu'à présent. Alors ce livre, qu'est-ce que c'était? Ce modèle est expliqué dans ce bouquin qui s'appelle « Les voies de l'émergence » chez Belin, qu'on a fait publier chez Belin. Pour résumer mon point, la vie, c'est effectivement le niveau d'analyse que regarde la biologie, c'est le moment où on déstabilise pour stabiliser. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai dit, les variations parmi un grand nombre d'acteurs à petite échelle, peut offrir une régularité du flux de génération à grande échelle. L'espèce est une convention de langage. Le programme n'est qu'une régularité sélective pensée à partir d'une biologie probabiliste. Vous pouvez remplacer le programme par ça. Je laisse tomber le plan et la formation. L'individu, c'est ce qui n'a jamais existé qu'une seule fois. Hier, il y a eu une très bonne remarque de quelqu'un, hier après-midi, sur le fait qu'en chimie, on est un peu embêté avec la notion d'individu. Et pour cause, en chimie, on n'est pas habitué à penser l'historicité d'un atome ou l'historicité d'une molécule. Or, avec des individus, tels que la biologie les regarde, vous êtes à des niveaux d'organisation suffisamment complexes pour que l'entité que vous regardez ait enregistré les étapes historiques par lesquelles elle est passée. C'est ce qu'on appelle, une propriété qu'on appelle l'historicité. Et il y a une épistémologie particulière de l'historicité. Les sciences nomologiques, comme la physique ou la chimie, ne sont pas véritablement habituées à travailler avec l'histoire des objets qu'ils regardent. On cherche des lois, on cherche des règles, on cherche des principes généraux. Les entités sont appelées des universaux, alors qu'en biologie, on regarde des particuliers. Donc les individus viennent directement de là. Un individu, qu'est-ce que c'est ? C'est précisément une trajectoire historique. Ce qui n'existait jamais qu'une seule fois, et il y a une épistémologie particulière pour ça. On pourrait dire qu'un individu est un stade, est un segment de l'ontophylogénèse, comme l'espèce est un segment du flux de génération. Et la transmission, elle est étendue aujourd'hui, ce qui nous permet d'envisager de nouvelles molécules à l'origine d'une régularité sans les cellules. Merci.
Merci Guillaume pour cet exposé qui, je suppose, vous laisse poser plein de questions, mais vous allez devoir attendre pour les questions puisqu'on aura plutôt un débat avec les trois intervenants de ce début de matinée. Et donc on va passer la parole à l'orateur suivant qui va donc Chantal Alberger qui va nous parler donc de ces fameux grands virus dont on a évoqué l'existence plusieurs fois donc dans la journée en tout cas d'hier. Et qui va nous faire le point sur qu'est-ce que c'est que ces grands virus.
Je voulais le pointeur, c'est pas grave. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler des virus et surtout vous les présenter. En fait, ils sont rattachés à deux des chapitres du livre blanc dont a parlé Catherine Jessu le premier jour. Parce qu'ils adressent la question de savoir qu'est-ce que la vie, est-ce que les virus font partie du monde du vivant, et également parce qu'on se pose la question de leur place dans l'évolution. Quelle a été leur contribution à l'évolution de la vie sur Terre, et eux-mêmes, comment évoluent-ils? Donc je voulais commencer par un petit peu un historique qui a été déjà présenté un petit peu hier avec le microscope de Anthony Van Leeuwenhoek, donc qui était un tapissier de son état. Et ce monsieur donc, avait développé ce microscope pour mesurer la qualité des textiles qu'il produisait. Et dans les faits, il n'a pas pu, en ayant cet instrument en main, il a fait comme tout le monde avec un microscope, il a regardé tout ce qui lui passait par la main. Et donc il a pu ainsi identifier, référencer, dessiner les trois types de bactéries qu'on connaît à l'heure actuelle, qui sont les coccies, qui sont circulaires, les bâtonnets et les spirales. Il a également décrit le spermatozoïde, c'est ce que vous voyez. Alors, je n'ose pas me servir du pointeur parce que je ne sais pas où il est. Donc, voilà un tracé d'un spermatozoïde, un dessin du spermatozoïde et les cellules sanguines. Il a également référencé les protistes unicellulaires et un certain nombre de choses. Ce qui a été également une énorme contribution à la microbiologie, c'est la théorie des germes qui a été proposée par Pasteur. Déjà, Leeuwenhoek, avec ses travaux, avait proposé que la génération spontanée n'existe pas, et ça a été complémenté par les travaux qui ont suivi avec Pasteur et Koch, qui, eux, postulaient que, en fait, toute maladie infectieuse avait une cause, et que cette cause était un micro-organisme qui était responsable de la transmission de la maladie. Donc ça a été... pour ça, il a fallu donc démontrer que c'était vrai. Et il y a eu ce fameux filtre de Chamberlain qui est présenté donc à gauche, qui est un filtre de porcelaine qui présente des pores naturels qui permettent de retenir des objets qui sont de taille supérieure à 0,2 micromètre. Et grâce à cet outil, on a pu isoler ces pathogènes et démontrer que c'était bien eux qui étaient responsables de la maladie. En parallèle, il y a eu aussi également un impact important en santé humaine, puisque grâce à ces filtres, on a pu stériliser l'eau directement sur les robinets, et donc ainsi éradiquer des épidémies comme celle de typhoïde. Alors, comme toujours en science, il suffit que quelque chose soit complètement admis. Donc, la théorie des germes était parfaitement admise. Les micro-organismes, on peut les retenir donc, par un filtre de Chamberlain pour les caractériser. Et là, le premier contre-exemple a été produit par une expérience réalisée par Dimitri Ivanovski qui s'intéressait donc à une pathologie qui affectait des plants de tabac. Et donc ce qu'il a fait, il a fait comme tout le monde donc à cette époque. Maintenant, c'était un standard en microbiologie. On prenait donc, par exemple, là, dans son cas, des feuilles malades, on les broyait, on récupérait ce broyat, on le passait au travers du filtre et en théorie, on devait avoir retenu sur le filtre l'agent pathogène qui pourrait être propagé sur une plante saine et développer la maladie. Mais là, ce n'est pas ce qui était retenu par le filtre qui va propager la maladie, c'est ce qui est passé au travers du filtre. Et ça a été donc le début de la virologie. Il y a eu un événement important dans la découverte de ces virus, d'abord parce qu'il y en a eu plusieurs par la suite qui ont été découverts, ce sont devenus les virus, mais leur premier nom, il a été donné par Bejering, c'est ce qui est marqué ici, c'est Contagium Vivum Fluidum. Ce qui est très important, puisque, évidemment, ça sous-entend qu'on n'a pas affaire à quelque chose de particulier, mais plutôt à un fluide contagieux. Et rapidement après, donc, il y a eu l'invention du microscope qui a permis donc, d'observer justement ce virus de la mosaïque du tabac que vous voyez sur la droite en microscopie électronique et qui a une allure quasi minérale, comme vous pouvez le constater aussi, donc avec ses bâtonnets qui semblent vraiment minéraux. Et en parallèle, Wayne Stanley qui a cristallisé ce virus de la mosaïque du tabac et a conclu qu'il avait une nature biochimique. Et plus tard, il a été démontré qu'en fait, il était fait à la fois de protéines et d'acides nucléiques. Mais Stanley, lui, a eu pour ses travaux le prix Nobel de chimie. Et donc, tout ça a eu un impact important à la fois dans le domaine de la microbiologie, mais également dans l'esprit populaire, sur le fait que les virus étaient globalement minéraux. Alors, il a fallu attendre la définition moderne qui a été proposée par André Wolff, date de 1957 et a été révisée en 1959. Et ce qui est intéressant, ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, les virus, il a cherché à définir les virus en donnant un certain nombre de critères. Et tous les critères que vous pouvez observer sont des critères qui sont tous négatifs. Les virus sont définis parce qu'ils ne sont pas et non pas parce qu'ils sont. Ils ne sont pas retenus par le filtre de Chamberlain, ils ne sont pas visibles au microscope optique, on ne peut pas les cultiver, il n'y a pas de production d'énergie. Et plus tard, on a compris qu'ils n'étaient pas capables de réaliser de la traduction quand on a su ce qu'étaient les ribosomes. Et ils ne sont pas capables de se diviser comme les cellules qui se divisent donc, par fission binaire. Et ce qui était également intéressant dans ses travaux, c'est qu'il a conclu donc son exposé ou son papier en concluant « les virus sont des virus ». Ce qui a un impact important parce que ça les exclut complètement du monde cellulaire. Alors maintenant, j'en viens au temps moderne et la découverte du premier virus géant, mimivirus. Ça a été en fait réalisé en deux étapes. Une première étape, ça a été à la suite d'un épisode donc de pneumonie dans un hôpital à Bradford. Tim Robotham a réussi à isoler un agent qui pouvait être l'agent responsable de cet épisode de pneumonie, mais qui, pour lui, était une bactérie. Il s'attendait à trouver des légionelles, donc dans les tours de refroidissement. Et en fait, les images qui sont présentées ici, ce sont des cellules, des amibes, dans lesquelles les légionelles classiquement se cachent. Et vous avez ici tous ces petits points que vous voyez pourpres qui montrent qu'en fait, donc on a affaire à une bactérie plutôt circulaire qui prend la coloration de Gram. Dans les faits, il a cherché à caractériser cette bactérie comme ça a toujours été fait une fois qu'on a réussi à isoler un pathogène et n'a jamais réussi à la cultiver ni la caractériser grâce à son génome. Il a fallu attendre 10 ans qu'un postdoc rejoigne le laboratoire de Didier Raoult, qui est un expert dans les parasites intracellulaires obligatoires, et qui a ramené avec lui un certain nombre d'échantillons, dont cet échantillon, en se disant bon, c'était la dernière chance d'éventuellement pouvoir caractériser ce pathogène. Et dans les faits, ce qu'a réalisé Bernard Lascola, après une série de tentatives de mise en culture qui ont échoué, il a réussi à montrer en microscopie électronique l'agent infectieux que vous voyez ici donc, sur l'image de droite, et qui a une structure typique d'un virus icosaédrique, et qui, dans la seule surprise, c'est, si vous voulez, la barre d'échelle que vous avez ici, qui montre qu'il a à peu près, il atteint la taille d'un demi-micromètre. Vous vous souvenez ce qu'on disait, les virus passent à travers le filtre de Chamberlain. Ce virus serait retenu par le filtre de Chamberlain. Et il est probable que si mimivirus n'a jamais été trouvé auparavant, c'est parce que tous les travaux qui ont été réalisés par la suite pour isoler des virus utiliser cet argument de filtrabilité et donc rejeter la fraction qui était retenue par les filtres. C'est pour ça qu'il a fallu attendre si longtemps avant de découvrir les virus géants. Ce que vous voyez d'ailleurs sur l'image en fond, c'est un tapis de mimivirus visible au microscope optique. Donc son génome était monstrueux, la particule elle-même, comme je vous l'ai dit, est monstrueuse. Vous avez à peu près, bon c'est un cartoon, une représentation, mais vous voyez à la même échelle une particule de mimivirus par rapport au virus du sida ou au virus du rhume. Le génome, c'est plus d'un million de paires de bases et plus d'un millier de gènes. Une autre découverte qui provient du laboratoire de Didier Raoult et qui est vraiment quelque chose qui est époustouflant, c'est la découverte du fait qu'il existe un petit virus, qui a été par la suite nommé virophage, qui est capable d'utiliser l'usine virale que développe dans la cellule mimivirus. Et comme vous pouvez le constater, ça rend les virus très malades. Donc ce qui soulève la question de si on est malade, est-ce qu'on peut être considéré comme étant vivant? C'est de la provocation, mais reste que c'est la réalité. Ce virophage, en fait, utilise exclusivement l'usine virale qui a été produite par l'infection à mimivirus et ne regarde absolument pas le noyau cellulaire ou le reste de la cellule. Alors ça a adressé, c'est quelque chose auquel a fait référence hier Patrick Porter, donc ça soulevait en fait un certain nombre de questions. Pourquoi un virus a-t-il besoin de 1000 gènes quand la majorité des virus qu'on connaissait jusqu'alors peuvent se satisfaire d'une poignée de gènes? Et en fait, c'est Jean-Michel qui a proposé ce parallèle, qui est représenté ici, c'est établir un lien entre la particule virale que l'on voit ici et le spermatozoïde. Ici, donc, on a un génome qui, si on le séquence, donc, donne à peu près 25 000 gènes. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces 25 000 gènes servent à faire ce spermatozoïde? Oui, incidemment, ils servent à faire ce spermatozoïde. Mais dans les faits, ces 25 000 gènes servent à produire l'organisme que vous voyez ici, qui va donc utiliser un système de gamètes pour disséminer son génome et produire d'autres organismes. Et on a exactement le même parallèle avec le virus. C'est-à-dire ici, ces 1000 gènes ne servent pas à faire la particule virale. Ces 1000 gènes servent à réaliser cet organisme, ce micro-organisme transitoire qui se développe à l'intérieur de la cellule infectée, qui est cette fameuse usine virale. Et c'est cette usine virale qui va produire de nouveaux virions, le virion étant le moyen de disséminer le génome du virus. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais dans les faits, on avait trouvé dans le génome de mimivirus un certain nombre de gènes qui, clairement, étaient identifiés dans les échantillons environnementaux. Et donc, on a décidé de partir à l'aventure et d'aller prospecter l'environnement à la recherche de nouveaux virus géants, parce qu'un virus n'est pas suffisant à démontrer que les virus géants ne sont pas des phénomènes de foire, mais appartiennent bien donc même si ça peut être questionné. Donc on est parti prospecter, et là je vous présente une nouvelle famille de virus qui, quand on l'a identifié, il nous a fallu plusieurs années pour nous convaincre de la nature vraiment de ce micro-organisme. Alors on peut identifier, maintenant on a 6 familles de ces pandoravirus, on les a appelés les pandoravirus, d'abord à cause de leur forme en amphore que vous voyez ici. Ils sont monstrueusement gros puisqu'ils font plus d'un micromètre de long pour un demi-micromètre de diamètre. On les trouve dans les tous types d'environnements, dans les océans, en Australie, au Chili, en Nouvelle-Calédonie, mais on les trouve également à côté du laboratoire à Marseille. Donc ils sont partout. Mais quand on a analysé, donc on avait du mal à se convaincre de la nature même de ces organismes, parce qu'ils étaient tellement différents de tout ce qu'on avait identifié jusqu'alors, et ils n'étaient pas référencés, qu'on les a appelés nouvelles formes de vie au départ. Et c'est, en fait, en étudiant le cycle infection, on s'est rendu compte qu'en effet, ils ne procédaient pas par division binaire, qu'ils développaient des usines virales dans les cellules, et ça nous a convaincus qu'on avait affaire à des virus. Et le séquençage du génome a révélé donc un génome encore plus immense et complexe que celui de mimivirus, qui pénétrait donc le monde des bactéries. Ici, on pénètre le monde des eucaryotes, avec plus de 2000 gènes codés par ces virus. Alors, la surprise également, ça a été d'analyser en analysant en détail ce génome, c'est de se rendre compte à quel point ces pandoravirus étaient différents de ce qu'on connaissait sur Terre à l'heure actuelle, puisqu'ils avaient plus de 90% de leurs gènes qui ne ressemblaient à rien de connu. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait un peu l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore. On n'a pas seulement prospecté l'environnement, on a décidé de remonter dans le temps, et on a décidé, grâce à une collaboration avec un laboratoire russe, qui avait réussi à réactiver une graine de plante de plus de 30 000 ans. On a partagé avec eux des échantillons pour essayer de voir si on ne pourrait pas être capable de réactiver des virus à partir de ces échantillons anciens. Et là, je parle d'un échantillon de 30 000 ans. Alors, c'est en Sibérie et dans une zone bien particulière où vous avez en fait une rivière qui a creusé en fait le pergélisol. Et grâce à ça, on a des falaises, c'est ce qui est représenté ici, qui permettent d'accéder directement aux aires géologiques en perforant perpendiculairement à la paroi. Et à partir de ces échantillons, on a eu la chance d'isoler deux nouveaux virus géants, tous les deux, un qu'on a appelé Pitovirus sibericum et l'autre Molivirus sibericum, et qui, en fait, sont des virus du passé. Pour l'instant, on n'a pas encore d'équivalent moderne de Molivirus, mais il y a plusieurs Pitovirus qui ont été découverts donc, depuis. Alors, les particules sont monstrueusement grosses, encore une fois. En ce qui concerne Molivirus, il fait à peu près un demi-micron de diamètre et il est sphérique. Et Pitovirus, bon, je trouve qu'il est magnifique, moi, mais je ne sais pas si vous serez sensible à sa beauté. Il fait presque 1,5 micron de long pour un demi-micromètre de diamètre. Et comme vous voyez, il a une forme aussi en ovoïde. Mais il contient un génome qui n'a rien à voir avec celui des Pandoravirus. Il a un tégument qui est vraiment très particulier. Et la particule est fermée par un bouchon, littéralement. Et si vous regardez ce bouchon par le haut, ben, vous voyez ce réseau qui est représenté ici. Alors évidemment, le fait qu'on réactive des virus à partir d'échantillons de pergélisol a affolé les foules et a suscité donc l'enthousiasme des médias. Et j'aime beaucoup ce cartoon qui a été produit par Charlie Hebdo et c'est pour ça que je vous le présente. Donc maintenant, nous sommes rendus avec quatre familles de virus géants qui ont chacun leur spécificité. Ils n'ont rien en commun, excepté la manière dont ils propagent leur génome en utilisant donc ce véhicule qu'on appelle le virion. Ils ont des tailles qui sont monstrueuses, donc évidemment, ils sont tous visibles au microscope optique. Mais ils ont également, de manière surprenante, un contenu en gènes qui est propre à chacun. Donc vous voyez ici les pourcentages, ces pourcentages qui sont en gris, là, qui sont montrés dans ces camemberts, correspondent à tous les gènes pour lesquels on n'a aucun équivalent, ni dans le monde cellulaire, ni dans le monde viral. Donc c'est un grand nombre de gènes dont on ne connaît absolument pas la fonction. Incidemment, on a résolu la structure d'un de ces gènes qui ne ressemble à quoi, de la protéine qui ne ressemble à rien de Pandoravirus, et la structure correspond à un nouveau repliement structural. Donc ça ne nous a absolument pas aidé de résoudre la structure de la protéine. Reste que ces virus sont censés reconnaître exactement les mêmes molécules fondamentales, les mêmes éléments fondamentaux que les cellules. Ils reconnaissent des acides nucléiques, des nucléotides, des acides aminés, des sucres, des lipides, Il semblerait que pour travailler avec ce même système, ce même matériel, ils utilisent des voies, des stratégies qui soient complètement différentes de celles qui sont utilisées par les cellules. Et chacune de ces familles de virus géants de manière indépendante. Alors, je parle de virus géants, mais il faut garder en tête que maintenant, on est convaincu qu'ils ont été occultés pour des raisons historiques et qu'il existe une continuité entre les virus les plus gros et les virus les plus petits. Alors évidemment, ça adresse la question de l'origine de ces virus, indépendamment du fait qu'ils soient vivants ou pas. Et donc, comme nous avons découvert trois de ces familles, nous avons décidé que nous avions le droit de spéculer sur leur origine. Et donc, c'est très provocateur ce que je propose, mais ce que je propose, en gros, c'est que la vie ait pu apparaître sur Terre plusieurs fois et de manière indépendante, avec des stratégies différentes. Et qu'en fait... Dans la compétition donc de cette époque, où on avait des protocellules et ces différentes stratégies, en fait, la compétition a favorisé l'émergence de ce qu'allait devenir plus tard Lucas, grâce à la combinaison d'ailleurs de ces stratégies. Et que ce qu'on propose, en fait, c'est la théorie des perdants et des vainqueurs. On propose que Lucas, c'est le système vainqueur qui s'est installé et a pris possession de la planète, et que globalement, les losers, les perdants, n'avaient pas d'autre alternative que de devenir parasites des vainqueurs pour survivre au cours de l'évolution. Et la dernière chose que je veux vous montrer, donc, c'est cette image, qui je pense que j'aime utiliser cette image lorsque je vais enseigner dans les lycées, parce qu'il y a un grand débat, en général, ils sont prêts à s'arracher les yeux pour dire ce qu'il y a sur cette image entre un lapin et un canard. Et je trouve qu'en effet, regarder les choses, s'ouvrir l'esprit et essayer de voir par d'autres yeux, d'où l'interdisciplinarité et la raison pour laquelle on est tous ici, est quelque chose qui est très utile pour évoluer dans notre conception, dans notre interprétation de nos données. Et je vous remercie tous pour votre attention.
va écouter tout de suite la troisième intervenante, qui est Francesca Merlin, qui travaille à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, une UMR entre le CNRS Paris 1 et l'ENS, et qui va donc intervenir sur l'hérédité épigénétique. Oblige-t-elle à repenser la théorie de l'évolution ?
Merci beaucoup. Mon PowerPoint ne va pas du tout être riche comme les autres. C'est juste pour suivre un peu ce que je vais dire. Donc d'abord, quelques mots sur le contexte général. Le fait que les 20 dernières années, il y a eu des avancées dans divers domaines de la biologie, de l'épigénétique jusqu'à l'écologie comportementale, qui ont posé de nombreux défis à la théorie traditionnelle de l'évolution, à la synthèse moderne. Et en particulier, parmi l'un des piliers de la synthèse moderne qui a été remis en cause, il y a cette idée qui vient de la... une des hypothèses fondamentales de la génétique classique sur laquelle la théorie traditionnelle de l'évolution s'est appuyée, selon laquelle les seuls facteurs transmis d'une génération à la suivante sont des facteurs génétiques, sont les gènes. Et aujourd'hui, la vision traditionnelle d'une hérédité qui ne serait que génétique n'est plus tenable. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut affirmer sur la base des développements récents dans l'étude de plusieurs mécanismes qui sont dits mécanismes épigénétiques, parentaux, écologiques, culturels, qui sont impliqués dans le développement. C'est des mécanismes qui sont impliqués dans le développement des organismes et qui contribuent à la transmission intergénérationnelle de facteurs non génétiques divers, donc qui sont susceptibles, donc, comme ils sont transmis, d'avoir un impact sur les dynamiques évolutives. Or, de manière générale, il y a plusieurs questions et implications de l'hérédité non génétique. Je ne parle pas encore de l'hérédité épigénétique. Il y a d'abord la question que les biologistes et les philosophes se posent sur l'extension ou l'élargissement de la conception traditionnelle de l'hérédité, qui donc était jusqu'à maintenant centrée sur les gènes et qui doit aujourd'hui incorporer toute autre forme, tout autre mécanisme non génétique qui participe à la récurrence des caractéristiques des organismes le long d'une lignée, qui participe à la ressemblance parent-descendant. Il y a aussi une ouverture intéressante, une ouverture vers la possibilité de résoudre certains énigmes de l'évolution qui sont encore à résoudre. Par exemple, l'énigme concernant l'émergence de nouveaux niveaux d'organisation, comme le passage de l'unicellulaire au multicellulaire, ou encore des questions comme la question de l'héritabilité manquante. Donc cette idée qu'on a certains traits pour lesquels la variation génétique ne suffit pas à elle seule à expliquer la variation phénotypique. La taille, il me semble, est un exemple. Après, il y a quelque chose d'autre dont a parlé déjà Guillaume, c'est l'environnement, et en particulier quand on parle d'hérédité écologique, donc la transmission d'une niche écologique et plus particulièrement la transmission de la modification de pression de sélection d'organisme à organisme, pas nécessairement de parents à descendants. Cette idée d'hérédité écologique fait que l'environnement n'est plus seulement un facteur qui joue un rôle important dans le développement et le fonctionnement des organismes, mais l'environnement vient s'intégrer en quelque sorte à l'héritage des organismes qui se fait tout au long de leur vie, tout au long de leur développement. Et donc si l'environnement devient quelque chose qui est transmis aussi, on voit bien que la distinction classique, historique entre hérédité, qui est ce qui est fixe, ce qui est transmis de génération en génération, et de l'autre côté l'environnement, ce qui est au contraire variable et qui peut avoir une influence sur les effets des facteurs héréditaires, cette distinction est remise en cause. Ou en d'autres termes aussi la distinction entre hérédité d'un côté et développement de l'autre, ou entre nature et ce qu'on appelle en anglais nurture, de l'inné et de l'acquis. Donc, on voit que c'est une conséquence possible. Une autre implication importante, c'est qu'avec la prise en compte de ces formes différentes d'hérédité, donc non génétiques, on voit qu'on doit aussi prendre en compte des nouvelles directions de transmission, non seulement la transmission verticale des parents descendants, mais aussi la transmission horizontale entre organismes qui appartiennent à la même génération, et aussi ce qu'on appelle la transmission oblique entre organismes qui n'appartiennent pas à la même génération, mais qui ne sont pas arrivés par des liens généalogiques. Et donc ça aussi, ça peut avoir une influence sur les dynamiques évolutives, ces différentes directions de la transmission. La question est de savoir si on doit mettre toutes ces formes de transmission sous le chapeau hérédité ou pas. C'est une question à discuter. Et puis plus généralement, Guillaume a montré à ce papier qui est paru dans Nature sur la nécessité d'étendre ou d'élargir la synthèse moderne, la théorie traditionnelle de l'évolution. Donc il y a cette question, sur la base de la prise en compte des formes d'hérédité non génétique, la question de l'élargissement du cadre théorique existant. Est-ce que on doit l'étendre, l'élargir? Est-ce qu'on doit le généraliser? Ou est-ce qu'on doit arriver jusqu'à le changer ou le remplacer par un autre cadre? Et pour répondre à ces questions, il faut d'abord, bien évidemment, être clair sur ce dont on parle, la synthèse moderne, parce que souvent, si on regarde la littérature sur l'extension de la synthèse moderne, ce qu'on appelle la synthèse évolutionnaire étendue, la synthèse moderne est souvent réduite à un certain nombre de principes assez inarticulés entre eux. Donc, elle est présentée de manière assez caricaturale. Et donc, un travail à faire, c'est d'abord d'être clair sur ce qu'on entend par synthèse moderne. Donc on va se focaliser un peu sur l'hérédité épigénétique, essayant de, je vais mettre en évidence juste trois questions ou implications de l'hérédité épigénétique. Tout d'abord, je n'ai pas le temps de répondre vraiment à la question qu'est-ce que l'épigénétique. Il y aurait toute une intervention à faire sur les différentes facettes de l'épigénétique. On a utilisé ce terme pour parler des différentes choses. Et si on parcourt l'histoire de Waddington jusqu'à aujourd'hui, on peut comprendre les différences, les points communs entre les différentes conceptions. Dans la littérature, en particulier en histoire et philosophie de la biologie, on trouve le fait qu'on peut trouver une distinction de deux origines de deux conceptions de l'épigénétique. L'une chez Waddington, où l'épigénétique est plutôt conçue comme en référence à l'épigénèse, cette idée qu'un organisme se construit au cours du développement et il n'est pas déjà préexistant dans l'œuf fécondé. Et donc pour Waddington, l'épigénétique, comme ça a été dit hier, était l'ensemble des complexes de processus qui ont lieu entre le génotype et le phénotype, donc processus qui implique l'interaction de tous les composants de l'œuf fécondé et qui amène donc du génotype au phénotype. Donc c'est une conception, non réductionniste, émergentiste de l'épigénétique qui met l'accent sur l'interaction, les interactions au cours du développement. Et de l'autre côté, il y a une autre conception de l'épigénétique qui trouve son origine dans les travaux de David Nanney, dont on a parlé aussi hier, dans les années fin des années 50. Et cette conception, qui est plutôt celle qu'on trouve aujourd'hui dans les approches moléculaires, fait référence à l'épigénétique comme à l'étude des changements dans les fonctions des gènes, qui sont stables, qui sont héritables à travers les divisions cellulaires et qui ne peuvent pas être expliquées par des changements de la séquence d'ADN. Et donc c'est plutôt dans cette deuxième conception qui est plutôt réductionniste parce que il y a toujours quand même l'idée, chez Nanney, il y avait encore toujours l'idée de programme génétique parce que les systèmes épigénétiques étaient conçus comme quelque chose qui est là pour décoder l'information qui est les spécificités qui sont encodées dans les gènes. C'est plutôt dans cette deuxième conception qu'émerge l'idée d'hérédité épigénétique, cette idée de stabilité au cours des divisions cellulaires, et puis à un niveau plus macroscopique, la possibilité d'une hérédité à travers les générations d'organismes. Et donc quand on parle dans ce contexte disciplinaire plutôt de la biologie moléculaire cellulaire d'hérédité épigénétique, on fait référence à la transmission par exemple de patterns de méthylation de l'ADN ou d'autres types de modifications chimiques de l'ADN qui ne modifient pas la séquence primaire de l'ADN, à la transmission de marques de la chromatine comme les modifications chimiques des histones. Hier on a parlé un petit peu de cette hypothèse du code histone, ou encore à des modifications de la structure tridimensionnelle de la chromatine, et même la transmission de petits ARN non codants peut être considérée comme la transmission de facteurs épigénétiques. Donc trois points sur l'hérédité épigénétique, des points plus ou moins spécifiques sur l'hérédité épigénétique. Tout d'abord, et Guillaume aussi l'a mentionné ce point, La prise en compte de l'hérédité épigénétique va faire en sorte qu'on se rend compte qu'on doit remettre le développement au cœur de l'évolution, alors que le développement était absent, comme dans une boîte noire, dans le cadre de la théorie synthétique moderne de l'évolution. Pourquoi ? Parce que donc, ce qu'on appelle l'épigénome d'un organisme peut changer tout au long de son cycle de vie, parfois sous l'influence de l'environnement, de façon plus ou moins plus fréquente apparemment que le génome, parce que l'épigénome est moins stable chimiquement. Et ces modifications qui ont lieu donc, durant le développement sont susceptibles d'être transmises à la génération suivante. Il faut faire attention parce que l'hérédité des modifications épigénétiques acquises en quelque sorte durant le développement ne vaut pas de la même façon pour tout organisme. On sait que par exemple chez les végétaux, où il n'y a pas vraiment de distinction nette entre la lignée germinale et la lignée somatique, cette transmission transgénérationnelle est beaucoup plus fréquente, alors que chez des animaux comme nous, chez les mammifères, il y a cette distinction entre la lignée germinale et la lignée somatique. Lors de la gamétogénèse, lors de la fécondation et des premières étapes de l'embryogenèse, il y a des mécanismes de reprogrammation, de remise à zéro des marques épigénétiques, et donc cette hérédité peut se faire, mais de manière moins fréquente, par exemple, en comparaison avec les plantes. Donc, en tout cas, du point de vue théorique, l'hérédité épigénétique implique, dans certains cas, la nécessité de mettre au jour le rôle non négligeable du développement en tant que source de variation héritable, et parfois même de ce qu'on appelle l'innovation, la nouveauté phénotypique. Et donc, c'est une nouveauté théorique de devoir le remettre au centre, au cœur de l'évolution. Deuxième point, on entend dans la littérature scientifique, mais aussi et surtout dans la littérature, dans la presse de vulgarisation, l'association entre épigénétique et lamarckisme, retour du lamarckisme. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette information ? Le fait que, comme je viens de le dire, certaines variations épigénétiques, par exemple des modifications de la méthylation de l'ADN, peuvent parfois être acquises par un organisme durant sa vie, durant ses développements, sous l'influence de l'environnement, c'est l'environnement qui induit ces modifications, et peuvent être transmises à la génération suivante. Donc, selon les partisans d'un retour du lamarckisme via l'hérédité épigénétique, il s'agit du retour d'une conception de l'hérédité flexible, aussi dite hérédité des caractères acquis, qu'on associe habituellement à Lamarck, même si c'était une idée de l'époque, ce n'était pas une idée de Lamarck, et Darwin même adhérait à l'hérédité des caractères acquis. Mais la question est, est-ce bien le cas ? Est-ce que vraiment il y a un retour du lamarckisme ? Et donc, mis à part le fait que, à mon avis, parler de lamarckisme ici n'a pas beaucoup de sens, je soutiens avec d'autres philosophes et historiens de la biologie, notamment un collègue Laurent Loison qui travaille dans mon laboratoire, que l'hérédité épigénétique n'implique pas un retour du lamarckisme et ou de l'hérédité des caractères acquis, et je vais dire pourquoi en trois points rapidement. D'une part, le lamarckisme et l'hérédité des caractères acquis sont souvent présentées comme équivalentes, mais en fait ce sont deux choses distinctes. Le lamarckisme fait référence à des théories générales lamarckiennes de l'évolution, et l'hérédité des caractères acquis est un mécanisme parmi d'autres qui est impliqué dans l'explication de l'évolution, qui est aussi présente dans d'autres théories, notamment dans la théorie darwinienne. Deuxième point, c'est que l'hérédité des caractères acquis est conçue par les lamarckiens comme une propriété originelle de la matière, du protoplasme, alors que les mécanismes qui sous-tendent l'hérédité épigénétique sont des mécanismes hautement évolués, sont des adaptations, sont le résultat de l'évolution par sélection naturelle. Et donc, en aucun cas, on peut identifier l'hérédité épigénétique à un mécanisme qui impliquerait un retour d'une certaine forme de lamarckisme. Ce sont deux choses complètement différentes. Il y a une différence épistémologique essentielle entre les théories lamarckiennes passées et les explications contemporaines qui découlent de la prise en compte de l'hérédité épigénétique. Et puis encore, même si on pourrait imaginer que maintenant la sélection naturelle a donné lieu à des mécanismes lamarckiens qui prennent le relais en quelque sorte de l'évolution darwinienne, on ne peut pas véritablement qualifier les mécanismes d'hérédité épigénétique de lamarckien, parce que pour être lamarckien et pouvoir donner lieu à de l'évolution, ces mécanismes devraient pouvoir produire de la variation qui est ouverte, qui est non contrainte et non préprogrammée, une variation qui est aussi adaptative, qui est assez fréquente et qui est stable, ce qui n'est pas le cas pour les mécanismes d'hérédité épigénétique. Et enfin, j'ajouterai aussi une question rhétorique qui est quelle est la différence entre une variation, une mutation génétique qui a été induite par l'environnement et qui est ensuite transmise à la génération suivante, chose qui était bien acceptée par les biologistes de la synthèse moderne, et puis la même chose, mais du côté d'une variation épigénétique. Je ne sais pas si j'ai le temps, je pense que non, donc je vais sauter le dernier point dont on pourra discuter pendant les questions, c'est plutôt sur voilà, des nouveaux modèles qui sont en train d'être développés pour prendre en compte l'hérédité épigénétique, mais pour l'instant, il y a encore plein de choses à... Ah, j'ai encore 5 minutes, je croyais... Ah non, bon, alors je vais faire ce point, si j'ai encore 5 minutes. Donc la question est de savoir, voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles méthodes pour prendre en compte cette hérédité épigénétique? Est-ce qu'on a des nouveaux modèles de l'évolution? Donc si on regarde par exemple du côté des travaux en épigénétique des populations, on voit qu'on emploie pour l'instant les mêmes méthodes, les mêmes traitements statistiques qu'en génétique des populations. Notamment par exemple, on fait des QTL, on map des QTL pour tester les liens entre variation épigénétique et variation phénotypique. Bien évidemment, on s'appuie sur des nouvelles techniques de séquençage à haut débit qui nous ont permis de séquencer l'épigénome. Mais pour l'instant, on a les mêmes, on utilise les mêmes méthodes de statistiques. Pour ce qui est de la modélisation mathématique, il y a pas mal de littérature en ce moment proposant des adaptations de modèles mathématiques existants en génétique des populations, en génétique quantitative, afin de prendre en compte l'hérédité épigénétique et aussi d'autres formes d'hérédité. Et si on regarde plutôt du côté de l'écologie évolutive, c'est là, il me semble, qu'on voit plus de nouveautés, parce que les mécanismes épigénétiques se révèlent être sous-jacents à un certain nombre de processus dont on ne connaissait pas les bases mécaniques, notamment ce qu'on appelle encore la plasticité phénotypique, et même un certain nombre de biologistes suggèrent que l'hérédité épigénétique est en quelque sorte une plasticité phénotypique transgénérationnelle, qui a donc aussi un impact sur les générations suivantes. Et donc, dans ce cadre, on trouve des modélisations du rôle de l'hérédité épigénétique dans l'adaptation, l'idée étant qu'il pourrait s'agir d'un mécanisme d'adaptation alternatif qui permet une évolution, par exemple, avec un taux beaucoup plus rapide et qui peut changer aussi les dynamiques, la direction des dynamiques de l'évolution. Et en particulier, il y a des modèles théoriques qui montrent un lien entre hérédité épigénétique le fait que des organismes sont dans des environnements qui ne sont pas très stables, ou encore des populations d'organismes dont le phénotype moyen est loin de l'optimum. En tout cas, voilà, toutes ces études qui essayent de modéliser comment l'hérédité épigénétique peut influencer le changement phénotypique, mais aussi avoir un impact sur le changement génétique lui-même. Donc, c'est un changement théorique important. Ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de biologistes qui, il me semble, montrent, par l'étude de l'hérédité épigénétique, qu'il faut faire place à un processus qui a été aussi... postulé pour la première fois par Conrad Waddington dans les années 40, l'assimilation génétique, qui était seulement une spéculation théorique dans le cas de Waddington et qui a donc été pendant longtemps largement délaissée. Et donc l'assimilation génétique, comme vous le savez, c'est l'idée selon laquelle un phénotype qui correspond initialement aux réponses physiologiques face à une variation du milieu peut finir par être produite de manière automatique et génétique au cours du développement si elle est sélectionnée positivement durant un nombre suffisant grand de générations. Et donc l'hérédité épigénétique permettrait à un phénotype de se maintenir lors d'un changement des paramètres du milieu. Donc là, il y aurait une réponse physiologique qui est stabilisée sur quelques générations par une modification épigénétique héritable. Et puis cela rendrait possible la sélection progressive des allèles qui contrôlent la mise en place génétique de ce phénotype. Donc l'évolution génétique des populations serait initiée par des processus strictement épigénétiques. Et c'est là donc quelque chose d'important à prendre en compte et intégrer dans les modèles de l'évolution. Pour finir, je vais juste dire un mot rapidement sur ce réseau thématique pluridisciplinaire, 3E, dont je fais partie, épigénétique en écologie et en évolution, qui essaie de mettre ensemble des chercheurs de l'INE, de l'INSB et de l'INSHS qui travaillent sur les questions donc, d'épigénétique en écologie et en évolution. Donc, si vous souhaitez en savoir plus et devenir membre de ce RTP, vous avez ici l'adresse, l'adresse du site internet. Et puis, je remercie un certain nombre de collègues et je vais remercier les organisateurs et vous tous pour votre attention. Merci.
Mais tu veux dire quelque chose ? On ouvre tout de suite les questions. D'accord. On va ouvrir tout de suite la discussion. Comme on a commencé vers 9h15, je demande à Dominique si on peut déborder un peu au-delà de 10h30, voilà, en fonction des questions. Donc, qui veut poser la première question ?
Je vois pas très bien. Alors, il y a quelqu'un là-bas au fond. Ouais, j'arrive pas à le voir.
Donc, merci de vous présenter, hein.
Vous m'entendez, c'est bon ? Oui, Péric Pitroux. Merci beaucoup pour ces présentations, en particulier la présentation sur la question de l'évolution et la critique faite de la question du donneur d'ordre. Et depuis hier, on voit bien que c'est reparu à plusieurs reprises, cette idée en fait de désengager les théories implicites d'un modèle... qui pourrait parfois simplifier, qui véhicule aussi des conceptions sociales. Donc je trouve que c'est assez fascinant d'essayer de dépasser la notion d'individu, la notion d'espèce, et les exemples que vous avancez, vous et vos collègues, sont évidemment extrêmement probants. Et la question en fait, que je poserai, qui est apparue déjà hier, c'est si on élimine en fait, ce niveau analytique, comment est-ce qu'on fait pour, si on pense finalement les choses dans un devenir sur un temps long, si on pense les choses comme comment dire, le vivant comme un phénomène qui s'organise à plusieurs échelles selon un modèle probabiliste, donc là je suis tout à fait convaincu, mais analytiquement comment on fait collectivement pour penser la différenciation et en quelque sorte l'organisation de ces niveaux et de ces échelles ? Parce qu'on voit bien qu'une cellule ne fonctionne pas comme un organisme, pour le dire vite, qu'un virus, et c'est pour ça que la deuxième présentation était fascinante aussi, a lui-même ses propres modes de fonctionnement. Alors comment est-ce qu'on peut analytiquement dire autre chose que de dire c'est probabiliste en fait ? Là, je pense qu'il y a un vrai enjeu épistémologique et je serais vraiment heureux de vous entendre là-dessus.
Un, deux, oui, c'est bon, ça marche. Oui, c'est une bonne question. Si je pense la comprendre, la question, je répondrai en tant que systématicien. Alors, mon vrai métier, c'est justement les classifications. Donc, c'est faire la distinction entre les contenants qui relèvent de nous et les contenus qui sont un flux de matière perpétuellement changeant. Je suis pas absolument convaincu que les cellules fonctionnent si différemment que ça des organismes, en fait. Nous avons en biologie toujours eu un écueil de vouloir inscrire dans la nature les catégories, c'est-à-dire les contenants dans nos têtes, comme limitant la capacité de la matière vivante à manifester ce qu'elle manifeste. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons tendance à réifier nos propres concepts. En fait, si on prend une posture nominaliste comme Darwin, on y va tranquille. Oui, on peut parler d'individus, oui, on peut parler d'espèces, seulement il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'individus, quand on parle d'espèces. J'ai bien aimé ce que disait Marc-André hier, il parlait d'outils. Effectivement, ce sont des outils, c'est-à-dire que nos catégories mentales sont faites par nous. Et si dans la façon dont nous analysons le vivant, nous en servons pas pour bloquer le changement qui se manifeste devant nous ou interdire des changements, après tout, ça a l'air facile comme ça, mais c'est pas évident. Hein. Après tout, on peut continuer à parler d'individus et d'espèces. L'individu défini comme
le point de départ d'un individu, ce que je veux dire est peut-être choquant pour la plupart d'entre vous, hein, le fait d'avoir fait des individus à partir de la fécondation jusqu'à la mort matérielle de quelque chose qui de toute façon n'arrête pas de changer sa matière, c'est une convention. On aurait pu décider, c'est parce qu'en fait c'est une convention qui est liée au fait qu'on a donné aux gènes le rôle de maître et de notaire de ce qui va être légué à la génération suivante. Mais si le gène est partenaire, toutes les conséquences de ce qu'on a dit, Francesca l'a dit aussi d'une certaine manière, toutes les conséquences de cette nouvelle biologie fait du gène un partenaire parmi de multiples acteurs et non plus un notaire ou un régisseur ou un donneur d'ordre. Il impulse, il est important bien sûr, hein, je ne dis pas qu'ils ne servent à rien, ils impulsent quelque chose ces gènes, mais ils ne contrôlent pas ce qui va se passer comme moi je l'ai appris dans ma biologie à l'époque où j'étais à l'université, enfin plus aujourd'hui en tout cas. Et donc partant de là, le champ est très ouvert. Ce que je vais dire n'est pas réaliste, mais c'est juste pour vous dire à quel point ça peut être ouvert. On aurait pu dire par exemple qu'un individu se définit selon d'autres modalités, à partir du moment où on rencontre son partenaire sexuel jusqu'au moment où les individus de la génération suivante rencontreront leur partenaire sexuel. Enfin, le segment dans le flux, on peut le choisir où on veut, hein, à partir duquel on va définir l'individu. C'est pour vous dire à quel point on peut ouvrir la question. Alors, évidemment, chez des vertébrés qui ont une biologie fondé sur le sexe, ça n'aurait pas de sens, ça aurait moins de sens que de faire ce qu'on fait à présent. Mais quand on regarde d'autres micro-organismes, on peut vraiment se poser la question où est l'individu. Chez des bactéries qui se divisent, la question se pose, hein, véritablement. Donc, centrer sur nous, ça paraît absurde, mais quand on embrasse l'ensemble du vivant, les questions ne sont pas si absurdes que ça. Donc, une réponse de taxonomiste, ne pas faire dire à nos catégories mentales, nos catégories taxonomiques, beaucoup plus que ce qu'elles disent. L'individu est une convention dans un flux, comme l'espèce peut l'être. Ouais. Tu as des compléments, Francesca ?
Non, je voulais juste ajouter que d'ailleurs, ceux qui s'interrogent un peu sur cette question de l'individualité, à partir de résultats de la biologie, que ce soit des résultats de la biologie de l'évolution, de la biologie du développement, vont vers un élargissement de cette notion d'individu qui ne se limite pas à identifier un individu avec ce qui est génétiquement identique. Et, par exemple, nos cellules, voilà, elles sont c'est une lignée de cellules génétiquement identiques. Mais, après, elles mutent, bien évidemment. Mais voilà, à inclure dans l'individu tous les organismes, les micro-organismes, par exemple, qui vivent en symbiose avec nous, que ce soit parce que l'unité de sélection, d'un point de vue de l'évolution, est une unité plus grande que l'organisme qu'on concevoit de manière, selon le sens commun, nous, mais aussi d'un point de vue du développement. Toutes les recherches sur le microbiome, etc., suggère une extension de cette notion d'individu, aussi d'un point de vue du développement.
J'avais deux questions.
Excusez-moi, juste pour préciser, quel serait le modèle en fait, causal qu'on peut mettre en avant pour analyser cette pluralité d'échelle en fait ? Et pas simplement constater qu'il y a une pluralité probabiliste. Est-ce qu'on a un modèle qui permet d'expliquer
Je ne sais pas si... dans ce que je disais, il était question d'inscrire une possibilité de sélection naturelle à tous les niveaux d'organisation. À partir des macromolécules. Hein. Et donc ce modèle causal, il est là. Alors il n'y a pas que la sélection, il y a aussi la dérive. Hein, je ne vais pas faire du pur sélectionnisme. Mais mon propos consistait à dire qu'au cours du XXe siècle, il y a des segments entiers de la biologie dans lesquels on n'a pas fait rentrer la sélection, alors qu'on aurait pu. Je ne sais pas si vous appellerez ça un modèle causal, mais en tout cas, c'est un facteur de stabilisation à court terme et évidemment, c'est un facteur de changement à long terme. Ouais.
Moi, j'aurais une... Est-ce que ça marche ? Oui. J'aurais une question, surtout Laura Bossi. Je suis neurologue et historienne des sciences. J'ai une question à propos... de différents modèles de théories de sélection qui ont été discutées ce matin, personne n'a parlé de Ernst Haeckel, qui en effet a été quand même le premier dans la généalomorphologie à proposer une classification phylogénétique du vivant et surtout à proposer un rôle crucial pour le développement qui maintenant redevient très important. En fait, il a fait probablement une première synthèse de la théorie de l'évolution. Et avec sa théorie de l'ontogenèse qui récapitule la phylogénèse, qui a été beaucoup critiquée, mais qui était très heuristique, et surtout qui a beaucoup écrit sur les différents rôles de l'individu, sur l'individuation et sur les différentes catégories de l'individu. Et les différentes facettes aussi de l'individu morphologique, physiologique, historique. Est-ce que vous pourriez commenter un peu ? Est-ce que... voilà.
Oh, bah, très, très brièvement, le 19e siècle est beaucoup plus souple à bien des égards. Comment dire ça ? Ce qui s'ouvre à nous aujourd'hui, effectivement, fait résonner dans la biologie d'aujourd'hui ce qu'ont écrit les auteurs du 19e. Au 20e, alors que Johansson et Morgan étaient très subtils et très prudents sur le rôle à donner aux gènes dans les années 20, début des années 10, des années 20. À partir de 1953, on a été beaucoup moins prudent quand on a trouvé le support matériel de l'hérédité, de quoi étaient constitués ces fameux gènes. Eh bien, on a réadopté un idéalisme platonicien, un mécanisme qui a été heuristique aussi, qui ont été heuristiques à un certain moment, bien sûr, mais qu'il est question de dépasser aujourd'hui. Et du coup, on revoit surgir, on relie les auteurs du 19e qui étaient moins arc-boutés sur le rôle des gènes. Alors, évidemment, Darwin, mais Haeckel, bien sûr. Haeckel peut faire partie des gens qui méritent d'être lus aujourd'hui à la lumière de ce qu'on sait.
Oui. Ici, Yago Bonici, donc biologiste et de nouveau étudiant en informatique. Je me demandais, par ici, oui. Dans ce contexte où on a du mal à trouver une définition donc des concepts qui nous chagrinent comme celui de l'individu ou celui de la sélection qui finalement retrouve à toutes les échelles, etc. J'ai l'impression que la volonté c'est toujours de l'agrandir pour essayer de fitter à tous les systèmes qui nous intéressent et finalement pas de l'assouplir dans le sens où on pourrait accepter que une définition de l'individu soit locale à un système auquel on s'intéresse et qui finalement on arrête de lui chercher un sens absolu. Une fois qu'on sait que c'est un concept humain et qu'on refuse de le réifier dans la nature parce que finalement c'est artificiel d'essayer de plaquer ce sens-là sur des objets naturels, est-ce qu'on n'a pas des démarches qui consistent simplement, une fois qu'on a choisi un système et qu'on sait de quelle façon on veut l'étudier, faire une définition de l'individu qui soit locale à cette étude-là et finalement s'en servir juste dans ce contexte sans en sortir? J'ai l'impression que cette démarche, elle est quasiment jamais prise, alors qu'elle est pertinente, selon moi.
Oui, je voulais juste dire que... ceux qui travaillent sur le concept d'individu, quelque chose sur lequel il y a assez de consensus, c'est que... une conception de l'individu, c'est toujours par rapport à un cadre théorique. Donc, on ne cherche pas une conception de l'individu absolue qui s'applique à toute échelle et selon toute perspective, mais selon la question qu'on pose quand on étudie un système biologique, que ce soit d'un point de vue, par exemple, de l'évolution ou du développement. Voilà, on va essayer de définir ce qu'est l'individu par rapport aux catégories dans lesquelles on se situe et à la question qu'on pose. Donc on ne cherche pas, je pense, une définition absolue de ce qu'est un individu.
Oui, mais tout à fait, je confirme. La raison du comportement que vous citez, c'est qu'on cherche une théorie relativement unifiée de la biologie. Quand on est dans une science, identifiée comme telle, c'est parce qu'elle a un cadre théorique qui l'unifie. Et en particulier en biologie, la notion d'individu, on essaie d'en faire une généralité, pas un absolu, mais qu'est-ce qui pourrait être général à un individu biologique ? La question n'est pas simple, mais si on cherche à aller dans ce sens-là, c'est bien parce que la biologie a besoin d'une théorie cohérente. Plus faible ? J'entends pas.
L'individu a une notion trop forte pour être général en biologie. Elle est trop forte pour être générale en biologie.
Ah oui, d'accord.
Christiane Binot, médecin-chercheur. Monsieur, vous avez soulevé l'hypothèse que les protéines pourraient être le premier niveau moléculaire et qu'assistées par un champ électrostatique, elles pourraient transmettre par contact une information conformationnelle. Est-ce que cette hypothèse pourrait être étendue aux protéines dites contaminantes dans les maladies neurodégénératives, comme les maladies à prion, la bêta-amyloïde, l'alpha-synucléine? Et étendre cette deuxième hypothèse à une troisième hypothèse qui pourrait rejoindre les pathologies infectieuses avec génome, unifiant le concept en somme d'infectiosité, que ce soit avec acide nucléique ou sans acide nucléique.
Oui, justement les prions sont un peu, quand on les a découverts, ceux qui ont... redonner l'idée que par contact, il y a quelques. Alors, il faut être très ouvert sur ce qui se transmet. Là, il s'agit de transmettre une conformation tridimensionnelle. Hein. C'est pas très fun, hein, mais je suis d'accord. Mais c'est cette idée que par contact, quelque chose qui varie et qui se transmet, qui se transmet par contact, ça peut être sujet, dans certaines circonstances, à sélection. Et c'est pour ça que ces protéines ont été remises sur le devant de la scène. Ouais. Oui, donc le modèle, ça pourrait s'appliquer, bien sûr. Mais je précise, il ne s'agit que d'un modèle, c'est une spéculation. Hein. Ce qui est intéressant avec cette histoire de champ électrostatique, c'est que le modèle pourrait prévoir que quand on agrège un certain nombre d'acides aminés, évidemment au hasard, il arrive un moment où le reploiement fait que ceux qui s'agrègent, les suivants qui s'agrègent, il y a des préférences. Et c'est le début d'une régularité. Pas à 100%, mais c'est le début d'une régularité. Donc on peut imaginer des protéines qui se ressemblent, jamais identiques bien sûr, mais qui se ressemblent quand même, dans un milieu donné. Et donc ça fait une population. Et si ça fait une population qui transmet des conformations, on a un début de modèle de sélection. Bon, c'est un modèle hein, pour l'instant. Donc le monde réel, effectivement, c'est les prions. Oui, les prions nous ont donné cette idée-là.
Oui, bonjour. C'était plus une question pour ce qui concernait l'intervention sur les virus, où en fait, à moins que ça m'échappait, mais vous avez considéré que cela faisait partie du monde des vivants, ce que je trouve très intéressant évidemment comme idée, mais vous n'avez pas vraiment énoncé des critères ou ce qui vous permet de considérer que cela faisait partie de ce monde-là. Donc est-ce que vous pouvez peut-être être plus explicite sur ce point ?
Où on arrête la frontière du vivant, mais ce qui est clair, c'est que donc il y a le développement de ce micro-organisme dans la cellule qui en fait utilise presque dans les cas extrêmes des virus les plus indépendants, les plus autonomes par rapport à la cellule. C'est vraiment un détournement de la cellule dans lequel elle est quasiment utilisée comme un milieu de culture. Et donc c'est un petit peu comme si on en fait, ce qui manque en généralité à tous les virus, c'est les ribosomes et la traduction. Donc, il y a quelques rares exemples de virus qui embarquent des ribosomes cellulaires pour les avoir au moment de leur infection. Mais d'une manière générale, ce que ne font pas les virus, c'est traduire, même si mimivirus et les mimiviridés en général possèdent des enzymes qui sont les gardiens du code génétique et qui sont des aminoacides terrestres synthétases. Ce qu'ils n'ont pas, c'est d'ARN ribosomal. Donc, dans les faits, ils utilisent la cellule pour la traduction et ces virus les plus indépendants ont tout ce qu'il leur faut et font même des choses que ne font pas les cellules. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont capables de synthétiser des sucres originaux qui n'existent pas dans la cellule. Ils sont capables de vraiment développer un métabolisme propre. Et en ce sens-là, je pense que le fait qu'ils utilisent un peu la cellule comme un milieu de culture leur donne le droit d'être considérés comme vivants. Mais c'est quelque chose de personnel que je donne là. Mais je pense que de toute façon, ils l'ont été vivants.
On va prendre une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Deux maximum, brièvement énoncées. Donc, monsieur qui attendait depuis un moment. Oui.
Jean Sirmet, médecin. Je me sers du concept d'individu. Au sens le plus naïf, une entité qui perd ses propriétés si les objets dont elle est formée sont séparés, qui ne peut pas être divisé. Et je trouve ce concept utile pour le biologiste que je suis, pour le médecin que je suis. quelle que soit, et je pense qu'elle, que c'est un concept qui a une valeur, une signification logique, indépendante de l'implémentation, indépendante du fait qu'elle s'applique, qu'elle soit implémentée par, dans la chimie, dans la robotique. Je pense qu'elle a la, qu'il a un contenu logique. Et je soumets cette proposition à votre critique.
Vous avez compris que si la notion elle est un peu secouée, c'est parce qu'on essaie de la, on essaie de l'appliquer à, alors on essaie d'avoir une notion de l'individu qui soit applicable à tout le vivant. Et il y a des organismes qui peuvent se séparer et continuer à vivre de leur côté et se réunifier. Et donc, en fait, ce principe-là ne serait pas applicable généralement. En fait, on a du mal à trouver une propriété qui soit... partant de nous, évidemment, nous sommes centrés sur nous-mêmes, donc nous. On a une notion d'individu qui semble bien marcher sur nous-mêmes, et on essaie de l'appliquer au reste du vivant, mais on voit que ça ne marche pas partout. Et donc, c'est ça le problème. Pardon. Je ne me souviens plus de... Tu te souviens, Marc-André, de... Tu te souviens, Marc-André, de ces... de ces eucaryotes qui sont transitoirement ensemble.
Et choses qui peuvent se séparer et se réunir. Bah, n'importe quel mycélium de champignons, on les sépare, ils sont séparés, les filaments se retrouvent, ils fusionnent et ça refait une seule...
Ah oui, bah, rien que les champignons déjà, oui. Moi, je cherchais, je ne sais plus quelle unicellulaire qui de temps en temps vit une vie de métazoaire et de temps en temps...
Dictyostélium.
Ah, dictyostélium, merci, voilà. Non, mais il y a quelques exemples, effectivement, où ça ne colle pas.
Marc-André, et puis monsieur au fond, voilà, peu importe, ce seront les dernières questions.
Alors, je ne voudrais pas qu'on s'entretue sur les virus, mais moi j'ai beaucoup apprécié cet exposé et je voulais vous faire part de deux remarques. La première, c'est que finalement, ils illustrent le point que je disais, qu'on cherche beaucoup trop des organismes, parce qu'on transpose trop, je pense, la notion d'individu dans la nature, et on ne reconnaît pas le statut de la dépendance. Moi, je connais plein d'organismes qui asservissent des cellules et sans lesquels ils ne peuvent pas se développer. La rouille du blé, par exemple. La rouille du blé, mais je pourrais vous en citer des dizaines. Bon. Alors, ce que je pense, c'est que les virus portent à l'extrême ce qui est une réalité pour tous les organismes, c'est la dépendance. Et finalement, à un certain moment, c'est vrai que reconnaître un individu ou un organisme devient difficile quand la dépendance est extrême. Mais c'est gradient, là encore. Et deuxième remarque, ce sont des organismes auxquels on fait l'injure de les représenter plus souvent sous leur forme de dissémination que sous leur forme végétative. Enfin, c'est comme si on donnait des photos de spores de champignons pour décrire les espèces de champignons. C'est absolument absurde. C'est les filaments qui comptent. Donc c'est la phase effectivement cellulaire de multiplication qui compte et qu'on ne représente jamais. La représentation qu'on a du virus, elle est truquée par la représentation de la forme de dissémination seulement. Pas vraiment dans les bons exposés. De ce point de vue, on a vu différentes choses dans vos images. Donc c'est pas un reproche, au contraire. Le pédagogue s'insurge là quand même.
Parler et présenter le cycle infectieux, ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, quoi. Mais sinon, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire à ce propos. Et je suis tout à fait d'accord pour cette notion de dépendance, mais il y a aussi la notion d'interaction, je pense, qui est importante et qui est importante d'une manière générale. Et je pense que c'est quelque chose, en effet, que vous avez soulevé hier et qui, je pense, est pas suffisamment mis en avant, même quand on se dispute entre le monde ARN, le monde protéique, le métabolisme. C'est clair que tout ça est complètement intriqué et que la vie a pu apparaître parce qu'il y avait des stratégies différentes, parallèles, qui ont contribué, grâce à une communication, à construire ce que nous sommes, ce qui a donné la vie par la suite.
Bonjour. Oui. Bonjour. Zuxu, donc biologiste au CNRS. Donc c'est une question pour Chantal Abergel aussi. Et donc s'il y a eu plusieurs fois apparition de la vie, pourquoi est-ce que les autres virus, autres que les virus géants, portent aussi ces traces donc dans des gènes qui n'ont pas d'orthologue ou d'homologue ailleurs? Et pourquoi les virus géants eux-mêmes, vu qu'ils interagissent avec les descendants de Lucas, notamment avec les eucaryotes, pourquoi ils n'ont pas perdu ces traces-là?
Bah, probablement. Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous avez dit, mais c'est vrai que d'une manière générale, oui, les virus ont souvent des gènes qui ne ressemblent à rien. Mais ce n'est pas vrai seulement des virus. Hein. C'est vrai, là, par exemple, avec ce qu'on nous a présenté hier avec les données de Tara Océan, il est clair que quand on prospecte des environnements qui n'ont pas encore été prospectés, là aussi il y a une source de ressources et de nouveaux gènes qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît, ceux qu'on connaissait, je devrais dire. Maintenant, je pense que ça correspond, je suis convaincue, mais c'est peut-être que je devrais dire je crois, plutôt que convaincue, que ça correspond à des stratégies, à des voies métaboliques qui sont originales chez ces virus, qui, je pense aussi que l'évolution va vers la complexification, et que donc, au départ, on peut avoir des processus relativement simples qui font des choses qui sont originales, et qu'avec l'évolution, on va vers une complexification de ces systèmes, dans lequel on va avoir éventuellement plusieurs partenaires qui vont réussir à faire la même chose, mais le faire mieux que ce que ça l'était au départ. Donc je pense qu'il y a un grand nombre de ressources métaboliques dans ces virus qui sont un avantage pour le développement du virus dans la cellule. Probablement parce qu'ils font des choses différemment, ils transforment différemment. On en a quelques exemples. Par exemple, je suis également biologiste structurale, donc je résous les structures de protéines. Et à chaque fois qu'on travaille, même sur des protéines virales qui présentent des domaines qui existent dans le monde cellulaire, très classiquement, on va trouver un second domaine, voire un troisième domaine, et qui correspondent à des nouveaux repliements structuraux et qui adressent vraiment la question de la fonction de la protéine. C'est-à-dire qu'on peut avoir au départ une interprétation de sa fonction, et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la résolution de la structure et dans la caractérisation enzymatique de la protéine, on va découvrir qu'elle ne fait absolument pas les choses comme dans le monde cellulaire. Et ça va pour de la transcription, par exemple, donc des processus qui sont vraiment fondamentaux. La réplication, la transcription, la réparation.
On va clore ce débat, et que vous pouvez certainement continuer soit pendant la pause café, soit la pause déjeuner. Et on va passer la parole à l'orateur suivant, qui est Yvon Le Mao.